Voilà le titre de la prédication. Alors regardez bien cette petite maison. Regardez comment elle est, regardez le temps qu'il y a dessus. Elle est belle. Regardez la lumière qui sort de cette maison. Ça, c'est une maison qui est bien implantée. C'est une maison dont les fondations sont solides. Comment construire une vie chrétienne qui va résister aux tempêtes? On a vu l'histoire de Jorina. Et si vous étiez à sa place, comment ça se passerait? Moi, je me suis posé la question assis là. Pourtant, je connaissais ma prédication. Comment je réagirais? On a reçu chacun un titre de propriété. Vous le savez. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas propriétaire. C'est Christ qui est propriétaire de nous. On est tous à chanter « Nous sommes enfants de Dieu !»« Gloire à Dieu !» Mais on vit dans quoi? Je ne sais pas, moi dans la Bible, je lis, vous êtes le temple de Dieu. Comment il est mon temple ce matin? Comment il est mon temple ce matin? Est-ce que, si ce qui est au-dessus de la maison arrive, est-ce que le temple va résister? Michael l'a dit tout à l'heure, les temps sont de plus en plus difficiles. Est-ce que je vais résister? Jésus-Christ a dit, quand je vais revenir sur cette terre, trouverai-je encore la foi? S'il l'a dit, c'est qu'il y a bien une raison. On a vu vendredi une sœur qui était effondrée, et je le comprends tout à fait, parce qu'on a un couple qui était dans le Seigneur, aguerri, et qui ont tout balancé par la fenêtre. Tout balancé par la fenêtre. Dieu n'existe pas. C'est des balivernes. Vous savez, c'est le prince de ce monde qui s'introduit, qui commence à changer, mais Dieu, est-ce qu'il t'a vraiment dit cela? Et on se laisse balayer. Alors on a un terrain. On a un terrain. Voilà, on n'est pas propriétaire, mais on a un terrain, c'est notre vie. Alors l'essentiel, c'est au départ de faire un état des lieux. Comment est notre vie? Peut-être qu'on a dégagé des choses. On doit vider le terrain. Il y a quelqu'un qui nous a dit, la terre est vierge. La terre de mon cœur est vierge. Dieu peut travailler quand la terre de ton cœur est vierge. Alors il faut le vider, c'est ce qu'on appelle la repentance. Ou alors tu fais partie de ces célèbres chrétiens qui sont riches de tout, mais qui sont d'une pauvreté incroyable. Et peut-être que ce matin, ben, on se sent comme les chrétiens de la Laodicée. Apocalypse chapitre 3 verset 17, « Parce que tu dis je suis riche », je vous rappelle que c'est Jésus qui dit ça. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. J'ai coupé le verset. C'est un problème pour certains et malheureusement beaucoup de chrétiens qui sont riches. Riches matériellement. Alors ils viennent à l'église. Parce que je suis chrétien. Ils sont riches de leur travail, ils sont riches de tout ce que vous voulez. Mais ils ne sont pas conscients d'une chose, c'est qu'ils sont atrocement pauvres, spirituellement. Alors faites compte, ils sont quoi? Ils sont un fétu de paille au milieu de la tempête. La première tempête qui vient, ils sont balayés. Et Christ, justement, emploie des mots forts. Malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Ils n'ont rien. leur vie n'est rien. Le conseil de... Oh, j'ai dû en sauter. Hein. Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Jésus s'adresse à une église. Il ne s'adresse pas aux gens du dehors. Il s'adresse à une église, à des chrétiens. Et ils sont fortement incités à acheter de l'or, pas de l'or ordinaire, mais de l'or éprouvé par le feu, de l'or qui vient du ciel. En fin de compte, ça se rapporte à ce qui peut glorifier Dieu dans notre vie. Ça se rapporte à ça. Cet or, c'est ça. C'est notre trésor. Qu'est-ce qui glorifie Dieu dans ma vie ce matin? En fin de compte, la ville de Laodicée était une ville très riche, matériellement très riche, parce qu'il y avait énormément de banques. Et vous aviez les chrétiens qui étaient formidablement bien habillés, des beaux vêtements. Et Dieu les invite à revêtir autre chose que les beaux vêtements, autre chose qu'une apparence. Il les invite à revêtir des vêtements blancs, des vêtements de la justice pour couvrir leur nudité spirituelle. Je trouve ça triste parce qu'on s'adresse à des chrétiens. Ensuite, ils avaient besoin d'avoir les yeux oints, d'un collyre. En fin de compte, les chrétiens n'avaient absolument pas besoin d'un médicament. Ils avaient besoin d'une véritable perception spirituelle. Combien d'entre nous sont ici aveugles spirituellement, incapables de comprendre la parole de Dieu? On le verra plus tard, parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie à force de compromission dans leur vie. C'est ce qui se passait exactement pour l'église de Laodicée. Dans nos églises, et Théophile l'a dit, on n'a même plus conscience de la pauvreté spirituelle. On se contente de beaux édifices, on se contente de biens matériels, des églises très riches. On crée des ambiances de concert. Vous avez des fois 2 heures avant la prédication. Et puis on harangue la foule en disant « Le Saint-Esprit est parmi nous, il est au milieu de nous ». Malheureusement, ça fait des années que Dieu ne vient même plus rendre une visite dans cette église. Christ termine la lettre en exhortant l'Église à avoir du zèle et à se repentir. Décidément. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Tous ceux que j'aime, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est l'amour de Dieu est incroyable. Malgré cela, Dieu les aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Comment construire une vie chrétienne qui tient la route? Quel est le secret pour éviter les pièges du malin? Qui, en fin de compte, sa plus belle réussite, c'est de faire de nous des chrétiens tièdes. Vous savez, des gens qui sont assis là, qu'il ne faut pas déranger. On va dépasser midi, le poulet va brûler. Et on ne s'attend même plus à ce que le Saint-Esprit parle, parce qu'on a la montre dans la tête. Encore une fois, j'ai l'impression que je devais... Touche pas, sinon touche pas. Je pense que c'est pour ça qu'elle touche. Apocalypse 3, 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est grave. Comment on est spirituellement ce matin? La suite, j'espère que vous allez vous retrouver dans la suite. Parce que vous allez devenir, vous n'avez pas pris de casque ce matin, parce que vous allez devenir chef de chantier. On va construire ensemble une maison, une véritable maison spirituelle, telle que votre vie doit être aujourd'hui. La première chose, j'ai posé la question à quelqu'un, la première chose qu'il faut faire quand on construit une maison, vous en fichez, vous avez les plans, vous avez l'architecte, vous avez tout, vous avez le terrain. La première chose qu'on fait, c'est quoi? Les fondations. Voilà. Très, très bien. Sur quel fondement ta vie est posée ce matin? Est-ce que c'est la religiosité? C'est pas le fait d'être assis dans une église qui te sauve. C'est absolument pas ça. Est-ce que ta vie est posée sur Jésus-Christ? Est-ce qu'elle est réellement posée sur Jésus-Christ? Parce que quand on va te dire « Est-ce que tu crois en Jésus-Christ ou je te tue ?» Ça va être quoi ta réponse? Renie ton Jésus-Christ, sinon je t'égorge. Ça va être quoi ta réponse? En fait, contre Christ est le seul fondement d'un salut à la fois physique et spirituel. Là, c'est bien, t'as pas touché. Ésaïe 28, 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est clair. La pierre est Jésus-Christ. Votre pierre d'appui, c'est Jésus-Christ. Votre vie doit s'appuyer sur Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être votre fondement ce matin. Car il est pour ton salut. C'est lui qui a accepter de mourir pour chacun d'entre nous ce matin. Lorsqu'on va à Christ et qu'on écoute et pratique sa parole, voici ce qu'il déclare. C'est la belle petite maison qu'on a vue tout à l'heure. En Luc chapitre 6, versets 47-48, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc, la pierre solidement posée qu'on a vue juste avant. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. La tempête est venue. Aussi horrible soit-elle, la maison est restée inébranlable. Ta vie posée sur Jésus-Christ est inébranlable. Même dans les pires tempêtes, il y a une seule erreur à ne pas commettre. C'est d'essayer de gagner de l'argent. Vous savez, on va mettre un peu moins de ciment, on va mettre un peu plus de sable, ça me fait gagner de l'argent. C'est-à-dire que on essaye autre chose. Un autre fondement. Et la maison, en fin de compte, elle est en danger. Et ça vient lorsqu'on écoute, vous savez, des doctrines, lorsqu'on entend des messages. Ces gens dont on a parlé vendredi sont allés sur Internet, la nouvelle religion. Ils ont entendu. Alors moi, ce qui me surprend, c'est que s'ils avaient entendu l'Évangile et pratiqué l'Évangile, ils ne se seraient pas effondrés. Voyez le danger. c'est entendre et pratiquer. Et lorsque on entend la parole de Dieu et on pratique la parole de Dieu, on devient invulnérable. C'est-à-dire que notre foi ne peut pas vaciller. On ne doute pas. Et il ne faut pas chercher un autre fondement, parce qu'en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, il est dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Ta maison va dégager si tu la construis sur autre chose que Jésus-Christ. Il faut prendre conscience aujourd'hui de la solidité des fondations de notre vie. Et surtout savoir en qui je crois. Est-ce que je crois en celui qui m'a été recommandé par sa parole, Jésus-Christ? Ou est-ce que je crois aux nouvelles doctrines qui apparaissent? Est-ce que tu as l'assurance que ta vie est bien posée? En Colossiens, chapitre 2, verset 8, il est dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Tous les blabla qu'on entend, toutes ces choses qui nous écartent de la parole de Dieu, et il va y en avoir de plus en plus. En fait, contre cette philosophie dont parle Paul, elle a envahi l'église de Colosse. Il commença à y entrer des choses qui n'avaient plus rien à voir avec ce qu'ils avaient entendu du départ. C'était des choses humaines. Et en fin de compte, ils ont commencé à douter sur l'assurance de leur salut. Et ils commençaient à s'effondrer. La véritable philosophie chrétienne amène toute pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'elle vous ramène tout de suite vers Jésus-Christ, la véritable doctrine. En 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les armes que Paul utilisait n'étaient pas des armes du monde. Il utilisait la parole de Dieu et la prière. Alors, vous dites ça au monde, ils vont dire devant la puissance de mon pays, tes armes ne valent rien du tout. Il y a certains dirigeants qui pourraient dire ça, que c'est tellement fragile la parole de Dieu et la prière devant des armes nucléaires. La seule chose, c'est que aucune de ces armes ne peut renverser le raisonnement humain, ne peut empêcher la parole de Dieu d'agir. En 2 Corinthiens, chapitre 43, verset 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Donc, c'est-à-dire ceux qui refusent d'entendre la parole de Dieu meurent. Ils sont en train de mourir. « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ni le Dieu de ce siècle, ni ses ministres ne peuvent s'élever contre la connaissance et la puissance de Dieu. Toute pensée, même ceux de ses adversaires, peuvent être captives par celui qui prend les sages dans leur propre ruse. C'est-à-dire qu'il va faire que leur pensée, leur façon d'agir, va se retourner contre eux. Et il sait que leurs pensées sont vaines. Mais il y a un gros problème, c'est que souvent, très très souvent, je l'ai dit à quelqu'un, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas l'assurance du salut. C'est le plus grand fléau qui puisse demeurer dans le cœur du chrétien. Ne pas avoir l'assurance du salut, ne pas avoir l'assurance du fondement de notre vie. Vous imaginez, vous creusez, vous faites une fondation, vous bâtissez une maison, mais d'un seul coup vous vous dites « Il n'y a pas assez de profondeur ». Et quand je vous dis « il n'y a pas assez de profondeur », je vous parle de quoi ? Profondeur spirituelle. Est-ce que vous avez de la profondeur spirituelle ? Les gens qui n'ont pas de profondeur spirituelle n'ont pas l'assurance de leur salut. Parce qu'ils ne touchent pas à ce qui est invisible. C'est tellement facile de dire oui, ça existe quand on voit. Mais quand on ne voit pas, il n'y a que la profondeur spirituelle qui va vous faire voir les choses d'en haut. Et c'est ce qui permet justement d'éviter les fausses doctrines. C'est ce qui permet de nous préserver contre les faux docteurs qui vont essayer de casser la fondation. Alors, là on a juste commencé, on a terminé les fondations. On va voir quatre piliers et après on va laisser un peu le chantier pendant quelques semaines. Et on verra la deuxième partie dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, on va voir quatre piliers. Ces quatre piliers qui, pour moi, ne seront peut-être pas les vôtres, mais qui, pour moi, sont fondamentaux. C'est-à-dire que s'il vous manque l'un de ces piliers, je ne donne pas cher de votre maison. La première, aussi bête que ça puisse paraître, et je me suis aperçu en discutant avec un frère, qu'il ne l'avait pas, la crainte de l'Éternel. C'est pour moi l'un des piliers majeurs, la crainte de l'Éternel. Je suis désolé si tu n'as pas la crainte de l'Éternel ce matin, je ne donne pas cher de ta maison. Décidément, tu n'as pas touché. Je ne sais pas pourquoi ça saute à chaque fois. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commandement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. C'est bizarre. On me dit que Dieu est amour et là, Pascal est en train de me dire que je dois avoir peur de Dieu. Est-ce que c'est ça, à votre avis, la crainte de l'Éternel ? C'est même plus qu'un respect. C'est d'accepter sans discuter ses préceptes. Tout ce qu'on lit dans la parole de Dieu, les accepter sans condition. La crainte de l'Éternel, c'est regarder Dieu comme étant souverain sur notre vie. Je suis le premier à déclarer que si tu es malade, c'est pas parce que tu as péché, c'est pas parce que ceci, c'est pas parce que cela. C'est la souveraineté de Dieu. Et en fin de compte, la crainte de l'Éternel, ce qui fait que ça nous donne un rapport particulier avec Dieu. Elle nous donne cette sagesse. Une sagesse et qui nous donne une saine intelligence. Proverbe 1:7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Il y a un mot qui est important, le commencement. En hébreu, résit, qui signifie le début. Il est impossible d'acquérir une connaissance des choses spirituelles si l'on refuse de commencer par le début. Et le début, c'est la crainte de l'Éternel. Et il y a des chrétiens, j'en ai rencontré un, qui n'a pas la crainte de l'Éternel. ça fait drôle, hein. Je trouve ça bizarre qu'on se dit chrétien et ne pas reconnaître qu'il est Dieu, parce que c'est ça en fin de compte. Ne pas reconnaître la suprématie de Dieu, ne pas reconnaître la souveraineté de Dieu, ne pas reconnaître que Dieu a le pouvoir de vie et de mort sur ma vie. C'est pas qu'il est méchant, il est juste et bon. C'est reconnaître le caractère de Dieu et y répondre en l'adorant, en lui faisant confiance, en lui obéissant et en le servant, quelles que soient les circonstances de notre vie. Combien d'entre nous ont fait demi-tour dans leur vie à la première difficulté? Combien? Sans cette crainte, on a l'intelligence obscurcie. On ignore profondément ce que représentent les choses spirituelles. On rate une étape. En Éphésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le problème, il est là. La crainte de Dieu, c'est un manque. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est un manque, c'est un endurcissement du cœur. C'est une ignorance des choses de Dieu, une ignorance du caractère de Dieu. En fin de compte, sans cette crainte, on ne peut pas voir les révélations de Dieu. On ne peut pas entrer dans les promesses de Dieu. On ne peut pas comprendre et entrer dans tout ce qui est spirituel. On reste éloigné du domaine spirituel. Ça, je suis en train de vous expliquer ce qui se passe lorsqu'on se dit « mais j'ai du mal à prier. J'ai du mal à entendre la voix de Dieu. » Parce qu'on a du mal à entrer dans les choses spirituelles, dans les profondeurs spirituelles. Si tu te mets devant le Seigneur en sachant qui il est, t'inquiète pas. Tu vas savoir prier, tu vas savoir parler. Il va t'enseigner. Et il y a des versets qui sont tout faits dans la parole de Dieu. Il y a même une prédication, c'est comme ça. Les versets sont tout faits. Romains 1, 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. En fin de compte, ils connaissent Dieu, mais ils ne glorifient pas Dieu. Ils n'y ont point rendu grâce. Merci Seigneur pour cette journée qui commence. Merci parce que encore ce matin, tu m'as permis d'être en vie. C'est une petite prière, mais elle est énorme. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça à faire ce matin, j'ai ça à faire ce matin. Vous allez voir tout à l'heure, il y a encore pire. Et ce verset termine par ce que je suis en train de vous expliquer. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le résultat de tout ça, c'est quoi? On ne voit pas les choses spirituelles. On est dans les ténèbres, tout simplement. Les païens, dont Paul parle, en fin de compte, ils ont renié ouvertement l'évidence de Dieu, sa souveraineté, sa puissance, son amour. Ils se sont détournés du but même pour lesquels, on va dire, Dieu les avait créés. C'est-à-dire glorifier sa personne et le remercier pour tout ce qu'il donne. Même les choses les plus insignifiantes. combien de gens, et j'aime bien parce que souvent nos sœurs africaines, dans leur prière, elles disent « Seigneur, merci parce qu'encore aujourd'hui, tu m'as permis de voir le jour se lever. » Et nous, des fois, on saute du lit parce qu'on a un rendez-vous, on a un truc à faire, et on n'est pas conscient qu'on a cette chance de sauter du lit. Ils ont une rébellion incroyable. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur a été plongé dans les ténèbres. On ne voit plus la présence de Dieu dans notre vie. Tout est basé sur l'endurcissement du cœur. Vous savez que, et je le dis et je le pense très fort, il n'y a rien de plus terrible que la religiosité. Tout est balayé parce qu'on se dit « oui, ben, de toute façon, je vais à l'église, je vais à toutes les réunions de l'église ». Si ta vie chrétienne se résume à ça, c'est triste. C'est triste. Que va-t-il advenir de ta maison quand la tempête va venir? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la crainte de Dieu est un élément essentiel et fondamental pour la vie du chrétien. En Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ça, c'est le fruit. Les ténèbres, c'est l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. En fait, quand celui qui a la crainte de l'Éternel va agir avec sagesse, il va rejeter le péché. Il va refuser de vivre dedans. Il va refuser même d'en être entouré. Quels sont les choix de ta vie ce matin? Est-ce que tu cours après le monde? Ou est-ce que tu dis non, je veux entrer dans les plans de Dieu? Celui qui est dans le monde, vivant dans son ancienne vie, il va garder sa nature d'antan. Combien de chrétiens souffrent en disant « Oui, mais bon, j'ai encore les péchés, j'arrive pas à m'en débarrasser, ceci, cela. » Tu as la réponse ce matin. Et c'est ce que Dieu a en horreur. Dieu a en horreur ces choses. On a terminé le premier pilier, maintenant on va attaquer le deuxième. Il y en a encore deux après. La parole de Dieu. La parole de Dieu. J'ai pas lu mon chapitre ce matin. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça se résume à ça? Est-ce que ça se résume à une obligation de lire la parole de Dieu? Ouh, je crois que j'ai touché une âme sensible. Est-ce que c'est naturel la parole de Dieu chez vous? Si tu veux bien conduire ta vie, si tu veux bien construire ta maison, il ne faut jamais perdre la parole de vue. Et il faut qu'elle éclaire ton chemin et ta vie. Je crois que je l'ai déjà mis en avant. En psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous avez une question à vous poser sur votre vie ou quelque chose à faire? Allez dans Proverbes, vous allez très vite y trouver la réponse. Même pour n'importe quelle question, allez dans Proverbes, fouillez dans Proverbes et vous allez trouver la réponse. Moi j'en ai trouvé un paquet de réponses. Le problème, c'est est-ce que j'y ai obéi? Parce que c'est beau de lire, mais il faut obéir. La méditer doit être une priorité dans notre vie. Et tôt le matin, il faut en faire ses délices. Qu'est-ce que tu fais le matin? Moi, je travaillais, mais je prenais le temps de lire ma parole. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Psaume 119, 148. Je devance l'éveil. C'est-à-dire que je me réveille avant mon réveil. Je réveille mon réveil. D'accord ? J'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Méditer ta parole, c'est pas lire un chapitre. Un verset parfois suffit. Rentrer dans le verset. Comprendre la puissance qu'il y a derrière chacun des mots de ce verset. Trouvez-moi dans la parole où il est dit « Je t'oblige » ou « Je te demande de lire un verset de ma parole tous les jours. » Je n'ai jamais trouvé ça. Fais-en tes délices, oui. C'est-à-dire que il va venir chez toi une soif. Et tu vas t'apercevoir de quoi ? C'est que tu vas t'éloigner du péché. On connaît celle-là. Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est évident. La parole de Dieu va te donner la conduite à tenir. Vous savez, des gens se posent la question, mais il y a un frère qui m'a posé cette question, mais comment on peut être conduit par l'Esprit ? Ben, je lui dis, quand tu es conduit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu te laisses faire. Combien d'entre nous ne laissent pas faire le Seigneur dans notre vie ? Ils veulent conduire au lieu d'être conduits. Tu te laisses faire, l'Esprit va prendre sa place et il va te conduire. Il va te faire courir à l'inverse de là où tu voudras aller parce que lui connaît le piège. C'est ça, être conduit par l'Esprit. Serrer la parole, c'est, en fait, quand on devient saint, parce que la parole lave, parce que la parole console, c'est en fin de compte exercer la sanctification au moyen de la vérité qu'est la parole. La parole, en fin de compte, est personnelle et transformatrice. Je vous mets au défi de prendre... Je vous donne un verset à deux ou trois personnes, le verset va parler totalement différemment à ces deux ou trois personnes. Parce que la parole est personnelle, suivant les circonstances de ta vie. Alors vous allez me dire, là je vais vous donner un verset, vous allez dire, mais attends, t'as pas parlé du... Psaume 119, verset 160, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Est-ce que je me suis contredit quand je vous ai dit que le fondement, c'est Jésus-Christ ? Le fondement de ta parole est la vérité. Qui est la vérité ? Vous allez y trouver Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Vous allez y trouver la vérité. Lorsque les disciples ont entendu et ont cru au message de l'Évangile, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont changé. Leur vie a été transformée. Ils ne voyaient plus les choses comme avant. Ils ont abandonné. Matthieu, qui était péager, il a tout abandonné. Pourtant, il gagnait de l'argent. Parce qu'il a connu la vérité. En fait, quand tu... médite la parole. Quand tu t'appropries la parole de Dieu, tu es sanctifié, tu es mis à part et transformé dans ta façon de vivre. Et qu'est-ce que nous dit Jean 15, 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous avez vu, vous avez entendu tout à l'heure, je vous ai dit, la parole vous lave. Et quand je dis elle lave, c'est qu'elle ne passe pas juste un petit... Non, elle décape. La parole décape. En fin de compte, et c'est là où je reviens à la crainte de Dieu, on est mis à part pour faire la volonté de Dieu. Donc vous comprenez que la crainte de l'Éternel, c'est... ça ne peut pas aller. Si vous n'avez pas la crainte, vous n'allez pas lire la parole. Vous n'allez pas entrer dans ces domaines-là. On va entrer au troisième pilier, Et là, je vais toucher la corde sensible, qui est une gangrène pour beaucoup de chrétiens qui sont confrontés, bien sûr. Le pardon, à lui ou à elle, je ne lui pardonnerai jamais. À tous les autres, oui. À lui et à elle, je ne lui pardonnerai jamais. Est-ce que Jésus t'a dit ça un jour ? Cette fois. Pardonnez-leur comme je vous ai pardonné. Combien ont prononcé ces paroles ? J'ai jamais lui pardonné. Ah, ça c'est trop. La rancœur est un véritable poison pour nos vies. Véritable poison. Et c'est aussi fort que l'offense, aussi violent. On ne peut pas tourner la page si on garde la haine de la personne dans notre cœur. Tu ne peux pas te dire chrétien et avoir cette tristesse dans le cœur pour la personne qui est devant toi. Dans ton cœur, tu dis, mais je te plains. Je te plains parce que moi, je sais où je vais. Et toi, tu vas mourir. Ça vous est jamais arrivé de penser comme ça ? Si vous commencez à penser comme ça, vous allez pardonner à n'importe qui. Parce que vous allez avoir cette tristesse pour la personne qui est devant vous, même si elle vous insulte, même si elle vous crache dessus. On a craché sur Jésus, on l'a frappé. Mais Jésus te dit, mais regarde où toi tu vas. Si tu ne lui montres pas un bel exemple, comment veux-tu qu'il me connaisse ou qu'elle me connaisse ? Comment témoigner de l'amour de Dieu si on répond par la violence au lieu du pardon ? Ouais, mais bon, si je pardonne, je suis une chiffre molle. Si tu pardonnes, mon gars ou madame, t'es un héros pour moi. Il faut beaucoup plus de courage pour pardonner que d'être violent. Vous le savez, ça ? Ah, beaucoup disent oui, mais où est ton pardon ? Vous savez, même si vous ne pardonnez pas, la personne en face, à la limite, elle n'est même pas touchée. C'est vous qui êtes rongé. C'est vous qui êtes rongé par l'amertume. Et je vous disais, la rancœur. Et pourtant, le pardon est une évidence pour le croyant. Le croyant qui n'a pas le pardon dans son cœur, il n'a pas Dieu. Il n'a pas Jésus-Christ. Jésus-Christ ne demeure pas dans son cœur. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort pour quoi ? Pour le pardon de nos péchés. Alors comment je peux déclarer à quelqu'un que j'ai Christ dans ma vie, alors que moi-même je suis incapable de faire ce que lui a fait ? Il ne peut pas demeurer en nous. C'est pas logique. Et souvent, le manque de pardon découle du moi. Le moi, c'est ce qu'il y a de plus terrible, l'orgueil. Si tu n'es plus orgueilleux, t'inquiète pas que tu vas pardonner sans problème. Et regardez ce que Jésus a dit à ses apôtres. Ah, j'ai dû aller trop loin. Je ne sais pas pourquoi ça saute comme ça. Alors, Marc 9, 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est à ce moment-là que tu vas être en capacité de pardonner. Un serviteur, c'est celui qui comble volontairement les besoins des autres. Volontairement. C'est-à-dire qu'il va aider volontairement les autres. Pas comme un esclave. parce qu'il va le faire avec joie. Mais un serviteur qui a volontairement effacé sa vie, lui n'existe plus, il existe pour les autres. Je crois que c'est Jésus qui dit qu'il appelle amis ceux qui donnent leur vie pour les autres. Et chacun, on est appelé à donner sa vie pour les autres. Et ce serviteur, lui, est capable de pardonner parce que il sait qu'il n'existe plus. Il sait que, quel que soit ce qu'il a pu endurer, c'est les autres qui comptent pour lui. En fin de compte, c'est le fameux mourir à soi-même, s'être dépouillé du vieil homme. Il y a une tartine à lire, Éphésiens chapitre 4, verset 20-24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si tu ne sais pas pardonner, ce n'est pas comme ça que tu as appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous étiez instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit Jésus-Christ. Je mets volontairement Jésus-Christ à la place de la vérité. Si tu as Christ en toi, Christ demeure en toi, tu vas devenir cet homme ou cette femme nouvelle. Si tu n'y arrives pas, c'est que Christ ne demeure pas en toi. Je ne peux pas le dire autrement. En fin de compte, notre cœur n'est plus endurci, n'est plus impur, juste parce que le fait, c'est juste, c'est un petit, c'est pas très approprié, c'est parce que Christ vit en nous et qu'il est l'objet de nos délices. En fin de compte, l'enseignement qu'on a reçu est conforme à la vérité, puisque Christ est la vérité. Et c'est lui qui nous enseigne aujourd'hui dans nos profondeurs. Nous ne vivons plus avec le péché d'antan, parce qu'on a été transformé par sa présence. Les croyants, en fin de compte, sont de nouvelles personnes en Christ. Et par conséquent, on n'a plus à vivre comme les païens. On ne doit plus se vautrer dans les choses du monde. Et quand on est attaqué de toutes parts, vous savez, insulté, mis à part parce que, on doit être capable de dire ce que notre modèle a dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui? Ainsi, on a continuellement besoin de se pardonner les uns les autres, même entre frères et sœurs. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. On a pris la Sainte Cène. Quand on prend le pain, ça veut dire qu'on fait partie du même corps. S'il y a une brique qui est mal taillée, s'il y a une brique qui est mal conçue, on va la mettre à l'écart. Ici, on nous demande, ben non, pardonne, parle. Et c'est quelque chose de primordial dans la vie du chrétien. C'est un poison. Le dernier pilier, je saute un peu pas mal de choses, c'est là où je vais encore faire mal. Et pourtant, il y a des gens ici qui ne sont absolument pas concernés par ce que je vais dire. Je ne citerai pas de nom. Mais ils sont absolument, et je le sais. La prière, sans laquelle toutes choses sont bien vaines. C'est quoi la définition de la prière la plus simple? C'est l'action de parler avec Dieu. Parler avec Dieu. Vous imaginez un enfant qui est avec son père et l'enfant ne parle absolument pas à son père. Absolument pas. Le jour, le soir, les vacances, il ne parle absolument pas. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de normal? Non, hein, on est d'accord. Pourquoi je dis alors que je suis enfant de Dieu, si je ne prie pas? Je dis volontairement cette parole, c'est pour choquer ce qu'on a en nous. Pourquoi tu dis alors que tu es enfant de Dieu, si tu ne parles pas avec ton Père? La prière, c'est l'arme du chrétien. La prière est la respiration de l'enfant de Dieu. C'est ce qui lui permet de vivre dans son quotidien. Je ne parle pas de... Vous savez, moi j'avais une image de la prière. Il fallait se mettre quelque part, il fallait ceci, cela. Et le Seigneur m'a montré que simplement, vous êtes en train de marcher dans le bois, vous êtes en train de faire vos courses, vous lui parlez. C'est ça la prière. En fait, compte, c'est la manifestation de la puissance de Dieu pour nos vies. Parce qu'on n'a pas conscience que derrière toutes ces choses, Dieu écoute. Dieu écoute. Alors si tu ne lui parles pas, ou d'un seul coup tu as un gros problème, Dieu va te dire, bah, ça y est, tu te réveilles. Nos prières savent, et ça c'est rassurant, toucher le cœur de Dieu. Et en fait, quand il agit selon ses plans, mais il agit aussi selon sa puissance. On va le voir. Je voulais quand même vous parler de cette chose. Matthieu 21, 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. On est chacun, et on le déclare, on est chacun le temple de Dieu. On fait quoi dans un temple? On adore. On prie. En fin de compte, le fin mot ici, je vous l'ai expliqué, c'est qu'en fin de compte, les gens qui dirigeaient le temple insistaient pour qu'on n'utilise pas l'argent du dehors, mais apparemment il y avait l'argent du temple. Vous savez, une certaine monnaie, entre guillemets, et il fallait donner de l'argent du dehors, l'échanger par de l'argent du temple, pour pouvoir acheter les animaux pour le sacrifice. Alors, il y avait déjà une commission quand on échangeait l'argent du temple, et en plus, après, ben, il fallait payer une taxe pour les animaux qu'on achetait. Mais Jésus, il a dit, mais attendez, le temple n'a pas été construit pour ça. Le temple, c'est la maison de Dieu. Je ne vous ai pas sauvé pour ça. Je ne vous ai pas sauvé pour me mélanger avec des choses qui n'ont rien à voir. Je ne vous ai pas sauvé pour que vous ayez des compromis dans vos cœurs. Ma maison est une maison de prière. Ton temple, ta vie doit être une vie de prière. Pourquoi tu te mélanges avec des choses qui n'ont rien à voir? Je t'ai sauvé pour que tu m'adores. Je t'ai sauvé pour que tu me parles. Je t'ai pas sauvé pour continuer à vivre comme avant. tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ce verset intervient quand Jésus a donné l'ordre au figuier de sécher. Il a séché sur place, dans la foulée. Les premières surprises, c'était les disciples. Oh, comment il a fait ça? Est-ce que nous, on serait capable d'en faire autant? Si on avait la foi, on serait capable de déplacer des montagnes. C'est ce que Jésus a dit. Si tu avais juste la foi d'une petite graine de moutarde. La foi est essentielle pour la prière. Une prière sans foi, c'est du blabla. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi, en fin de compte, repose sur Dieu. Et quand on prie, on doit avoir une foi inébranlable. C'est-à-dire que d'être sûr que quand je vais demander quelque chose à Dieu, la chose va se réaliser. Parce que la puissance est omnipotente. Et sa bonté est intarissable. Un épisode encore en Marc, chapitre 5, verset 34. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. » Je suis en train de parler de la dame à la perte de sang qui a rampé au milieu de la foule. Est-ce que vous le feriez, ça? Ramper au milieu de la foule. Parce qu'elle savait qu'en touchant même le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Si on me dit qu'elle n'avait pas la foi, et encore, c'est juste un exemple. Il y a deux choses. La première, c'est l'absence de doute. Elle n'a jamais douté. Est-ce que lorsqu'on prie, on doute? Est-ce qu'elle a cette foi? Elle avait cette foi, je ne dis pas est-ce qu'elle. Elle avait cette foi inébranlable en Dieu. Elle savait que lui seul était capable de la guérir. C'est pour ça que la prière, nos prières font appel à la puissance de Dieu. Pour accomplir ce qui est humainement impossible. En Marc 10, 27, Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Ça fait suite au fait qu'il y avait eu l'homme riche et Jésus avait déclaré qu'il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Les apôtres se sont dit, en fin de compte, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? En fin de compte, c'est là où Dieu dit, peut-être pour vous, vous ne voyez pas. Pour vous, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Il est capable de tout. Lorsqu'on ne doute plus sur la puissance de Dieu, lorsque je demande à Dieu ne lui est pas impossible, c'est là précisément que les miracles s'accomplissent. Pourquoi dans les pays où il n'y a rien, nos sœurs africaines, elles peuvent le confirmer. Il y a des miracles qui se produisent. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont que Dieu. C'est tout ce qu'il leur reste. Et ils voient des miracles. Nous, ici, on vit dans l'opulence. Si vous lisez le livre du Sadhu Sundar Singh, il est arrivé en 1920 en Allemagne. Il n'est jamais plus revenu. Ce qu'il avait saisi, c'était les chrétiens qui étaient vautrés sur leur chaise devant lui. Il avait une image complètement différente du chrétien. Et lui voyait des gens vautrés dans leur suffisance, dans leur puissance matérielle, alors que lui vivait, il venait d'un pays où c'était la misère. Et il y avait des gens qui croyaient en Dieu. Alors est-ce que nos maisons sont des maisons de prière? Est-ce qu'on sent la puissance de Dieu s'y déverser? Est-ce qu'on sent les murs trembler lorsqu'on prie? On arrive à la fin. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. La guérison dont parle ce verset, c'est la guérison de l'âme. Ce n'est pas la guérison physique, c'est la prière agissante et efficace du juste qui l'amène à la guérison spirituelle. C'est-à-dire que Dieu va toucher ses profondeurs. Élie était un homme comme nous, exactement comme nous, en tout point. Il avait ses points forts, il avait ses faiblesses. Il avait une chose, c'est qu'il avait une foi incroyable en Dieu. Et quand il a fait cette prière, elle s'est réalisée de suite. Et nous, il faut qu'on fasse attention, chacun. Parce que là, peut-être, je vous parle de choses maintenant dans vos vies. Mais il y a quelque chose qui nous rappelle, en 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche. » Soyez sages et sobres, c'est-à-dire ayez de l'intelligence pour les choses qui concernent Dieu. Soyez sobres des choses du monde et vaquez à la prière. Les événements s'accélèrent autour de nous. Le retour de Christ est imminent. De toute façon, on voit bien, le monde va très bien. On n'attend qu'une chose, l'Antéchrist. C'est la dernière phase qui nous montrera le retour de Jésus-Christ. Le peu de temps qui nous reste, ça nous donne une motivation pour se rapprocher de Jésus-Christ. Vous savez, pour commencer à regarder notre baraque et dire « faut que je la démolisse, faut que je reconstruise sur quelque chose de nouveau. » On doit être sage, on doit être sobre et de manière à prier efficacement. La prière à laquelle on doit accorder une très grande priorité en temps de persécution, et ça doit être une communication claire avec Dieu, raisonnable et sobre. Donc là, en conclusion, enfin, on arrive, je vais dire, on va laisser une pause, on a commencé les travaux, on sait les éléments qui sont présents. Est-ce que ces éléments sont dans notre vie aujourd'hui? Est-ce que j'ai les fondements? Est-ce que j'ai ces 4 piliers? Est-ce que ainsi je suis sur le bon chemin de la vérité? C'est essentiel de comprendre, c'est essentiel d'y réfléchir. Parce que s'il nous manque un de ces piliers, la maison va s'effondrer. Ne pas oublier aussi que, et j'ai oublié d'en parler, que ne pas méditer la parole de Dieu provoque un blocage spirituel. Parce que la parole de Dieu éclaire tout ce qui est ténèbre en nous. Si on ne médite pas la parole de Dieu, on retarde l'efficacité de Dieu dans nos vies. Nous avons chacun à réfléchir et peut-être à pallier à ce qui manque dans nos vies aujourd'hui. Être honnête, sincère, dire « bah oui Seigneur, il me manque ça dans ma vie aujourd'hui ». Parce que les tempêtes vont arriver. Vous savez, c'est pire qu'un cyclone, si vous lisez, je ne parle pas d'Apocalypse, mais si vous lisez 1 Thessalonicien, 2 Thessaloniciens, tout, même Daniel, c'est des ouragans. Et ils vont être de force 10, qui n'existent pas selon l'homme. Ça va être dévastateur. Alors réfléchissons chacun, et la prochaine fois on verra la construction du toit. est le plus important, ce qui est à l'intérieur de la maison. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce, parce que c'est vrai, tu nous as tout donné. Mais qu'en faisons-nous aujourd'hui? On a des difficultés dans nos vies, et on s'aperçoit pas que souvent c'est parce qu'on a raté quelque chose. C'est pas qu'on a raté sa vie, mais c'est qu'on a raté l'étape où tu nous as donné quelque chose de précieux, et nous l'avons pas pris. Seigneur, que nous puissions revenir à la source et reprendre tout ce que tu as nous donné. Je demande pardon pour mes imperfections. Tu les connais, Seigneur. Et je glorifie ton nom parce que tu nous aimes chacun. Et tu es capable de revenir vers nous et de nous donner ce que nous avons refusé de prendre. Seigneur, que chacun nous puissions aujourd'hui commencer une nouvelle maison qui sera solide, qui sera inébranlable face au prince de ce monde qui va tout tenter pour la démolir. Seigneur, nous avons foi en toi au nom de Jésus-Christ. Amen.